10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, c'est parti pour les informés, vous le savez, durant une heure, pour commenter, analyser et décrypter l'actualité, nous sommes ensemble tout simplement, ici pour revenir sur les résultats, la réélection, la victoire d'Emmanuel Macron. On reviendra évidemment le lendemain avec les analyses apportées par les débatteurs influenceurs qui sont avec nous, mais également aussi vous, au 01 53 48 3000, on va se poser, essayer de regarder. Pour quelle raison aussi Marine Le Pen, elle se retrouve à 42, mais attention, elle a gagné 5%, donc ça veut dire entre 4 et 5 millions de votants de plus. Est-ce que cela traduit quelque chose? Emmanuel Macron aussi, on va parler aussi du vote blanc, ce vote blanc qui représente quelque chose aussi et qui pèse dans cette élection présidentielle. Est-ce que Emmanuel Macron, le tout nouveau président, enfin la réélection du tout nouveau président, va-t-elle changer la donne? Est-ce que la France va être gouvernée différemment? C'est les questions qu'on va se poser ce matin, ici même, au 01 53 48 3000, partout en France aussi. On viendra vous écouter, venir nous apporter votre éclairage et puis aussi comment vous avez vécu cette soirée, comment vous voyez l'avenir. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés, le face-à-face.
Face-à-face, c'est avec, je vais commencer avec Shannon Seban, élu sur Rosny-sur-Seine. Bonjour Shannon.
Bonjour Adil, bonjour à toutes et à tous. Très très bien ce matin.
Vous avez la patate ce matin.
ravi.
Vous étiez au Champ de Mars.
J'étais au Champ de Mars hier. Ça s'est très bien passé, une belle ambiance, beaucoup de ferveur, beaucoup d'humilité aussi, parce qu'effectivement le plus dur commence et il faut se mettre au travail. Mais très très bonne ambiance et je suis vraiment ravie de cette soirée et ravie de cette belle réélection.
Eh bien écoutez, on va en parler. Face à vous, c'est Amine Chriette. Bonjour Amine, éditorialiste, comment ça va?
Très bien, merci.
On va ouvrir votre micro parce qu'il était éteint. Ça va, tout va bien?
Ouais, vous m'entendez?
Oui, nettement mieux.
Ouais, merci.
Allez, nous allons démarrer avec cette réaction, on va revenir un peu, on va revenir non pas à chaud, mais on va tenter de poser le cadre, essayer de comprendre ce qui s'est passé durant cette élection avec un peu de recul. Amine Chriette, comment vous vivez le lendemain de cette réélection d'Emmanuel Macron en important chiffre, évidemment, on va mettre un coup de projecteur sur les différents chiffres.
Bah écoutez, c'est une bonne nouvelle. Contre effectivement l'extrême droite, Emmanuel Macron a été élu, mais il y a effectivement une abstention massive, n'oublions pas, et puis aussi qui représente énormément, plus que le
ça représente entre 13 et 14 millions
et puis 3,2 millions de personnes qui ont voté blanc. Voilà. Donc je veux dire, aujourd'hui on vit dans une crise démocratique, tout le monde connaît la situation. 5 ans de règne d'Emmanuel Macron et une situation aujourd'hui économique catastrophique, des inégalités sociales qui s'accroissent, une politique étrangère qui doit être remise en question, nos relations avec les pays du Maghreb, avec l'Afrique. Il y a des choses que le président Emmanuel Macron a fait, des bonnes choses, avec notamment sur la guerre ukrainienne, russe. La médiation de Macron a été une bonne chose, je le dis. Je ne suis pas un anti-macroniste, primaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce quinquennat va être extrêmement difficile, puisque le président de la République va se confronter à plusieurs défis. D'abord, il doit unir un gouvernement national, donc il devra composer avec.
Avant de revenir justement sur ce futur gouvernement, on n'en est pas là, on veut juste simplement poser un petit peu. Ouais, vous allez un peu trop vite, Amine Chriette. Je veux juste qu'on pose un peu les différents éléments.
Salue la victoire du président de la République et des gens qui ont voté pour lui, voilà.
On sait que les mélenchonistes, les lepenistes sont en train de préparer d'ores et déjà les législatives et les macronistes aussi et tous les autres. Mais comme hier, il a donné un peu le ton, Jean-Luc Mélenchon. Shannon Seban, comment vous avez vécu la soirée, puisque vous y étiez, vous, et effectivement, qu'est-ce qui se disait, qu'est-ce qui se racontait, qu'est-ce que vous avez pu capter, quels sont les différents bribes que vous avez captées évidemment dans cette ambiance?
Écoutez, moi, ce que j'ai vu hier, c'était des Françaises et des Français qui étaient ravis de cette victoire, ravis de savoir que la France n'avait pas cédé aux tentations de l'extrême droite, notamment en votant contre Marine Le Pen, en faisant barrage à l'extrême droite. Je me félicite de savoir que 42% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon se sont reportés pour ce second tour pour Emmanuel Macron.
54, oui, précisément.
Voilà, donc c'est plutôt bien de voir qu'on a un tel report de voix. Ça prouve qu'effectivement, les Françaises et les Français ont su faire preuve d'un esprit de responsabilité. Et puis, par ailleurs, il y a aussi un esprit de responsabilité qui incombe au président de la République, Emmanuel Macron. Il en a conscience, il aborde ce second quinquennat avec beaucoup d'humilité, et il le sait, il faudra se mettre au travail. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de rassembler. Les enjeux de ce second mandat, ce sera rassembler, concerter, pour gouverner. Et effectivement, on le sait, hein, les différents partis l'ont dit, l'enjeu est désormais de pouvoir rassembler une majorité pour les législatives, pour pouvoir ensuite pouvoir gouverner et appliquer le programme pour lequel Emmanuel Macron a été réélu.
Alors, il parle d'union nationale. Un gouvernement d'union nationale, ça veut dire quoi, un gouvernement d'union nationale ? C'est vrai ?
Un gouvernement d'union nationale, c'est de dire que...
Pour que nos auditeurs comprennent.
Vous savez, nous, on n'est pas dans une optique de se dire... Je suis de gauche, je suis de droite, je suis d'extrême droite, je suis d'extrême gauche. Et le président de la République l'a appelé hier en disant d'ailleurs, je ne suis pas le candidat d'un camp, mais je suis le candidat de tous les Français et de tous les Françaises. Donc ça, c'est déjà un message qui est très fort. C'est une main tendue à toutes les sensibilités politiques afin de dire, si vous avez des bonnes idées, qu'elles viennent de gauche, de droite, de peu importe la tendance politique, nous les prenons et nous devons surtout entendre la colère des Françaises et des Français. Et c'est ça aussi, c'est que le vote qui a été celui de l'extrême gauche, qui a été celui de l'extrême droite, a exprimé, si vous voulez, une certaine colère. On le sait, il faut aller plus loin sur la question de l'écologie, il faut aller plus loin sur le social, il faut aller plus loin sur la thématique du pouvoir d'achat. Vous voyez, tout ça, ce sont trois thématiques très clivantes, on le sait. Pouvoir d'achat, santé, écologie. Quand vous regardez les sondages, ce sont aujourd'hui sur ces thématiques-là que les Françaises et les Français attendent le président. Et je crois effectivement qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est prêt à gouverner pour un second mandat et à continuer la relance économique du pays et à continuer à porter un bilan économique qui est déjà très satisfaisant.
Parlons-en avec Triel, justement, quand je lis sur les réseaux sociaux, certains ont trouvé un peu léger le discours d'Emmanuel Macron d'hier concernant donc... beaucoup attendaient beaucoup plus que cela, ils attendaient notamment peut-être un signal fort, quelques gages. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne sais pas quel gage peut faire le président de la République. Il a fait effectivement un
discours. Mais sur le discours d'hier.
Sur le discours d'hier, oui. Il saluait effectivement sa victoire et donc il l'a célébré. Et je pense qu'il a conscience qu'aujourd'hui, il est important pour lui d'avoir des coalitions. Nous sommes aujourd'hui, nous aurons des élections législatives le 12 juin et le 19. Et donc, on aura forcément un gouvernement de cohabitation. Aujourd'hui, le président de la République n'a pas d'autre choix que de composer. Vous savez, la politique, ce sont des rapports de force. Donc, le président de la République, il est obligé aujourd'hui de composer avec l'opposition. Mmh. Il n'a pas le choix. Et comme l'a rappelé
Shannon Seban,
je crois qu'aujourd'hui, les grands thèmes, c'est effectivement, comme elle l'a rappelé à juste titre, les grands thèmes seront la question d'écologie, question du pouvoir d'achat et la question de la santé. Aussi la question du chômage aujourd'hui. Les inégalités perdurent sur nos territoires.
Oui. Mais Marine Le Pen gagne du terrain quand on voit cette élection quand même.
Bien évidemment.
Même s'il est largement élu Emmanuel Macron à 58,4%, 58,6%, Marine Le Pen est à 42%. Elle gagne 5% de plus quand même. Est-ce que on a, comment dirais-je, un signal qui est lancé ? Est-ce que les Français expriment quelque chose là, Shannon Seban ?
Marine Le Pen, je crois que...
Elle gratte du terrain, en tout cas, voilà.
Oui, mais ça, vous savez, Emmanuel Macron et sa majorité... ont bien compris qu'effectivement, il y a eu un vote qui a été contestataire. On le sait bien, parmi les 58,5% de Françaises et de Français qui ont voté pour Emmanuel Macron hier soir, on le sait bien, c'est pas 58,5% de convaincus. On le sait. On le sait bien, il y a eu un vote qui a été un vote de raison et parfois pas un vote de conviction. Et ça, d'ailleurs, je m'en félicite. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, si vous avez une grande majorité, et quand vous regardez la sociologie de la grande majorité des votants de Marine Le Pen, c'est effectivement une majorité d'ouvriers, une majorité d'habitants de zones rurales. Ça, on le sait. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a décidé en quelque sorte de mettre le paquet sur ces territoires-là, que sur les ouvriers, notamment la question du pouvoir d'achat qui les concerne tant, il y a un gros travail qui a été fait et un gros travail qui continuera à être fait. Je tiens d'ailleurs à rappeler à ce sujet que sur ce dernier quinquennat, de 2017 à 2022, les Françaises et les Français ont gagné 5,5% de pouvoir d'achat sur ce quinquennat. Donc ce qui est quand même énorme. Dès le mois de juillet, Les pensions de retraite seront indexées sur l'inflation. Emmanuel Macron, par ailleurs, il faut d'ailleurs le dire, il a revalorisé la prime d'activité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un salarié qui touchait au SMIC en moyenne 1 260 € net par mois, grâce à cette revalorisation de la prime d'activité, in fine, à la fin du mois, il pourra toucher près de 1 490 € net par mois.
Donc, je laisserai aussi le soin aux auditeurs de réagir, bien sûr, et de venir commenter cette actualité au 01 53 48 3000. Amine Chriette.
Alors, en même temps, nous avons eu la flat tax, on a eu la baisse de l'APL, nous avons eu aussi le bouclier fiscal qui est quelque chose d'intéressant qu'il a fait quand même sur la question de l'inflation, mais on a eu pas mal aussi de choses inégalitaires qui ont favorisé en tout cas les ultra riches. Ça aussi, il faut, je pense, le souligner de façon objective et cohérente. Mais sur la question effectivement d'Emmanuel Macron, moi j'ai dit aujourd'hui qu'il y a vraiment un cri d'alarme, un cri démocratique, une crise démocratique et de nos institutions. Emmanuel Macron disait en 2017 qu'il serait le candidat du renouveau démocratique. Il était pour auditer les ministres. Il l'avait proposé en 2017. Et donc aujourd'hui, on voit très bien que les ministres ne rendent pas de compte. On voit très bien que le Parlement est une chambre d'enregistrement. Ça pose effectivement aussi une crise, si vous voulez, parlementaire et démocratique. Et aujourd'hui, on voit bien aussi qu'avec la crise du Covid, Emmanuel Macron a créé le Conseil de défense, là, pour effectivement faire barrage, je dirais, entre à la fois les institutions qui est le Parlement, qui doit jouer son rôle en France, son rôle démocratique, et ça pose aussi des questions aujourd'hui essentielles.
Non.
Et c'est ce qui fait aujourd'hui, si vous voulez, cette contestation à la fois sociale, mais aussi démocratique. La Ve République est à bout de souffle, et donc il va falloir repenser un projet en commun, mais ensemble.
Vous l'entendez aujourd'hui ?
Non, moi ce que j'entends pas, c'est de dire que Emmanuel Macron est le président qui respecte le moins la démocratie, alors même que c'est le candidat qui s'est présenté en 2017 devant les Françaises et les Français avec un projet qui était celui de dépasser les clivages politiques et de dire justement, je prends
vous
les idées.
Vous avez dit quoi ? J'ai pas entendu.
En 2017.
Ah, 2017.
Mais il l'a fait hier sur le Champ de Mars, cher Hamid. Il l'a fait hier en disant qu'il prendrait les bonnes idées, qu'elles soient de gauche comme de droite. Et c'est ce qui marche aujourd'hui. C'est ce en même temps qui attend d'avenir politique. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est quand vous dites que... Justement, vous me tendez la perche. Justement, vous me tendez la perche. Emmanuel Macron est le président qui a fait de la démocratie participative.
La présidentielle de l'Afrique.
Laissez-moi finir, cher ami. Emmanuel Macron est celui qui a fait de la démocratie participative un des axes majeurs de son quinquennat. Quel est le président qui a lancé le grand débat ? Quel est le président qui a lancé la Convention citoyenne pour le climat ? Quel est le président qui a décidé d'aller le plus au contact des Françaises et des Français ? Vous savez, le 10 avril dernier, au soir, quand Emmanuel Macron a été élu au premier tour de cette élection présidentielle 2022, dès le lendemain, le lendemain du premier tour, le 11 avril, il était déjà à Denain, dans les Hauts-de-France, dans une région d'ailleurs dans laquelle il n'a pas fait les meilleurs scores, pour s'en confronter aux Françaises et aux Français, et pour aller justement au contact de celles et ceux qui ne croyaient pas en lui pour ce second mandat, pour comprendre ce qui ne va pas. Ça sert à rien, si vous voulez, que d'aller au lendemain du premier tour d'une élection présidentielle dans les zones dans lesquelles vous avez les meilleurs scores. Non, il a été au contact des Françaises et des Français pour comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, et pour voir mieux avancer ensuite.
Amine Chriette.
Donc ce que vous dites, vous, c'est qu'il n'y a pas de crise démocratique en France et qu'il n'y a pas de crise institutionnelle. C'est ce que vous dites ?
C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les Françaises et les Français ont fait un choix. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une crise démocratique. Nous, on entend.
Comment se fait-il aujourd'hui que vous dites qu'Emmanuel Macron a mis le paquet sur la question démocratique et nous, aujourd'hui, nous avons une crise démocratique, une crise de la représentation qui ne date pas d'Emmanuel Macron. J'en conviens bien.
Ça, on est bien d'accord là-dessus, effectivement.
On est d'accord. Mais aujourd'hui, ce grand débat national qu'il a fait, évidemment, il n'avait pas le choix avec la crise des Gilets jaunes, elle n'a conduit à rien. Il y a eu une volonté d'action, etc. Mais le problème avec Emmanuel Macron, ce sont les actes. Il y a une volonté politique. Et tout le monde s'accorde aujourd'hui, tous les observateurs, laissez-moi juste terminer, tous les observateurs s'accordent sur le fait qu'Emmanuel Macron a cette volonté politique et il hausse de la tête en disant oui, je vais faire des choses, mais lorsqu'il s'agit d'actes, malheureusement, les actes sont là.
On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron n'a rien fait au cours de ce quinquennat. Je tiens par ailleurs à rappeler.
Du climat, regardez.
On posera la question.
Regardez, compris.
Je tiens par ailleurs à rappeler.
Les recommandations.
Et ça, tout le monde le reconnaît.
Attendez, le
qu'on
plan
soit
Borloo.
De gauche, de droite, d'extrême droite,
sur le terrain.
Laissez-moi finir. On sort quand même d'une crise majeure. Et d'ailleurs, nombreux sont les auditrices et les auditeurs qui l'ont reconnu sur ce plateau à titre d'exemple. On sort de la crise de la Covid-19. On rentre dans une crise qui est la crise ukrainienne. Nous avons eu les gilets jaunes, effectivement. Il y a eu beaucoup de mouvements.
Rien n'a été fait, donc vous êtes d'accord avec
mais
moi.
Mais pas du tout, mais
vous
comment
dites
vous pouvez dire
crise,
que rien n'a été
qu'il
fait,
pas fait.
Comment
donc
vous pouvez vous dire, laissez-moi finir s'il vous plaît, comment vous pouvez dire que rien n'a été... Non, s'il vous plaît, n'interprétez pas mes propos et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
La crise.
Laissez-moi finir, s'il vous plaît. D'accord. Ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, on sort d'une période qui a été extrêmement difficile pour nos compatriotes et que nous sommes quand même en sortie de quinquennat avec un taux de chômage qui est au plus bas depuis près de 15 ans, un taux de chômage à 7,4%, un taux de chômage des jeunes qui est au plus bas depuis près de 40 ans. Nous avons mis en place un plan de relance avec un quoi qu'il en coûte qui a permis de sauver des millions d'emplois, d'entreprises, de salariés. Voilà, nous avons un plan de relance. Nous avons, mais ça effectivement qu'il y aura remboursé. Nous ne sommes pas dupes, vous le savez. Mais nous avons préféré prévenir que guérir. Il est préférable de prévenir que de guérir. Quand vous allez aujourd'hui sur le terrain, mon cher Hamid, et quand vous allez parler à des salariés, à des chefs d'entreprise, à des restaurateurs, à des hôteliers, à toutes ces professions-là qui aujourd'hui vous disent, mais sans quoi qu'il en coûte, sans Emmanuel Macron, sans Bruno Le Maire, eh bien moi j'aurais terminé mon activité, j'aurais fermé le rideau. C'est pas ça dont on a envie aujourd'hui, nous avons sauvé.
On va marquer juste la première pause, on se retrouve avec vous, justement, Shannon Seban, Hamid Chriet, mais également, j'ouvre le standard 01 53 48 3000, j'ai Nabil du 94 qui va donc juste après la pub, on va l'écouter et certainement qu'il aura peut-être des commentaires et des questions aussi. 01 53 48 3000, on vous attend.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Et les 10h21, les informés, 01 53 48 3000, jingle.
Les informés reviennent dans un instant.
Reviennent, ça y est, on y est là, c'était le jingle du 01 53 48 3000. Nabil du 94, bonjour Nabil. Nabil, bonjour.
Oui, bonjour, je voulais intervenir sur votre émission.
Bien sûr, bienvenue.
Concernant les résultats des élections présidentielles 2022. J'écoutais votre batteuse sur le plateau, Shannon.
Shannon,
bonjour Nabil.
Se réjouis. Oui, bonjour. Vous vous réjouissez que Emmanuel Macron a gagné avec un gros score. Je suis désolé, moi je regarde les chiffres. Entre 2017 et 2022, il a perdu 2 millions de voix. Donc à un moment donné, ça interpelle quand même. 2 millions de voix en 5 ans, l'extrême droite arrive à un record historique.
C'est un record historique, vous avez raison de le rappeler, Nabil, c'est vrai. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Sachant que l'abstention est historique également. Il y a plusieurs facteurs qui montrent que cette élection est la plus désastreuse. Je ne sais pas, mais à un moment donné, il faut poser des questions. Comment se fait-il que Emmanuel Macron, en 2017, il a fait 20 millions de voix, en 2022, il fait 18 millions de voix, il perd 2 millions de voix, il se réjouit de sa victoire, en sachant que les derniers jours, on est revenu concernant Marine Le Pen en disant qu'elle est raciste. On accusait son parti de racisme, de xénophobe, etc. Et malgré tout, a fait un score historique. On n'a jamais vu ça.
C'est vrai, c'est historique son score. Oui.
En sachant également, je vous rajoute autre chose, c'est qu'il y a eu des émeutes. Hier, il y a eu des émeutes à Paris, à Rennes, à Lyon, dans des grandes villes. Et j'ai écouté attentivement ce que vous disiez sur votre plateau, notamment Shannon, qui disait que Emmanuel Macron a été dans des villes où il n'est pas arrivé premier, où il voulait se confronter à des idées, etc., à des personnes qui étaient opposées à ces idées, etc. Excusez-moi, il n'a pas été à Hénin Beaumont. À Hénin Beaumont, Marine Le Pen a gagné. Vous allez également à Le Forêt dans le 62, Marine Le Pen est arrivée première. Dans le nord de la France et également au sud, notamment à Nice, à Cannes, Marine Le Pen fait des gros scores.
Shannon Sebon vous répond. Reste avec nous, Nabil. Très intéressant ce que vous apportez.
Emmanuel Macron sait que la plupart des Françaises et des Français, ou en tout cas sait qu'il y a une grande partie des Françaises et des Français, près de 40%, qui ont voté pour Marine Le Pen. Il sait très bien qu'ils n'ont pas fait un vote, si vous voulez, de conviction, mais un vote de raison. Aujourd'hui, moi, si je suis sur votre plateau à Dille ce matin, ce n'est pas pour dire que je me réjouis du score qui est celui d'Emmanuel Macron. On aborde ce second mandat avec beaucoup d'humilité, mais c'est de dire que nous sommes ravis de voir que nous avons réussi à faire barrage à l'extrême droite. Et nombreux sont les responsables politiques, quelle que soit leur sensibilité, en France, qui reconnaissent effectivement que c'est une belle victoire pour les Françaises et les Français. D'ailleurs, même à l'international, on a un bon nombre de responsables politiques qui s'en félicitent, que de dire qu'effectivement, nous n'avons pas céder aux tentations de l'extrême droite. Donc c'est un vote de
même raison. Si la ville rappelle que c'est un record historique.
C'est un record historique, effectivement. Mais historique. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Et on
mais, qui a, mais, qui a du, mais qui a du sens.
Mais ça, qui a du sens.
Qui a du sens.
Excusez-moi. Parce qu'effectivement, 13 millions de Français,
absolument,
13 millions de Français, ont fait aujourd'hui, ont fait, pardon, hier,
je vous redonne la parole
le choix de déposer un bulletin dans l'urne pour Marine Le Pen. Donc, si vous voulez, ce sont autant de voix, 13 millions de Françaises et Français, qu'il faudra réussir par ailleurs à convaincre tout au long de ce quinquennat que nous portons le meilleur projet, et un projet de progrès, un projet de raison, un projet d'égalité, de liberté, de fraternité. pour la France et pour une meilleure place de la France dans l'Europe,
Nabil,
et dans le monde.
Nabil.
Bah, écoutez, je suis pas du tout d'accord avec vos propos, avec votre constat. Je suis désolé de vous le dire. Il y a beaucoup de gens qui ont voté Emmanuel Macron au second tour pour faire barrage à Marine Le Pen.
Mais ça, c'est ce que je viens de vous dire. C'est pas forcément un vote de conviction, c'est un vote de raison. Effectivement, on l'entend.
Excusez-moi, madame. Vous avez dit que beaucoup de personnes ont voté Marine Le Pen car c'est un vote de contestation concernant Emmanuel Macron. Mais n'oubliez pas l'inverse également, qui est vrai. C'est que beaucoup de gens ont voté Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite.
Mais c'est exactement ce que je vous dis, Nabil.
Il faut juste un peu atténuer les résultats d'Emmanuel Macron, se remettre en question. Ça serait bien qu'il se remette au travail, qu'il aille dans les quartiers populaires, parce qu'il l'a fait dernièrement lorsqu'il a fait campagne les derniers jours, d'accord ? Mais on a vu les résultats qu'il a
de la boxe,
notamment dans les quartiers populaires.
Stéréotype raciste, quoi.
C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, un de ses derniers déplacements de campagne, c'était justement à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, pour aller au contact des quartiers populaires, pour rappeler tout ce qui a été fait, dire qu'il y aura une grande mesure qui sera mise en place à l'horizon 2030 justement pour les quartiers.
Oui, mais c'est des mesures, madame, c'est encore des paroles.
Mais
c'est toujours des paroles.
Ah, il a rien fait
Macron,
dans les quartiers.
Mais il n'y a pas d'acte.
Si on réfléchit comme ça, vous savez, si on réfléchit comme ça, on n'avancera pas.
On l'entend.
Si on réfléchit comme ça, on n'avancera pas.
Il y a une colère.
Mais on l'entend, cette colère.
Il en a parlé d'ailleurs, Emmanuel.
Colère, vous l'avez entendu.
Il a parlé de colère.
Mais Nabil, vous savez, je viens moi-même du 93. Je viens moi-même de Seine-Saint-Denis. Je peux vous dire que j'entends la colère qui est celle des quartiers, effectivement, et le président l'a entendu, il a fait beaucoup pour les quartiers populaires avec le dédoublement des classes, etc. Donc tout ça, on l'entend, et nous avons un quinquennat pour agir de nouveau, et nous agirons.
Attendez, il y a Amine Chriette qui souhaiterait aussi échanger avec vous.
Non, mais c'est vrai, vous avez raison, moi je partage votre opinion. C'est vrai que durant ces 5 ans, Emmanuel Macron a eu cette chance qu'on lui a donné, les quartiers populaires s'étaient mobilisés pour voter pour lui. Il était populaire, effectivement. Il y a eu Emmanuel Macron incarnait un nouveau visage, mais c'est vrai que pendant ces 5 ans-là, mis à part le dédoublement des classes, etc., Emmanuel Macron n'a rien fait. Il a jeté le plan Borloo ici, et personne ici sur cette table peut contester ça. Personne ici.
Non, mais
il y a eu un conseil présidentiel des villes. Emmanuel Macron n'a rien fait dans ce conseil présidentiel des villes. Rien n'a été appliqué. Les inégalités se sont accrues et il est parti en Seine-Saint-Denis pour faire de la boxe. C'est le stéréotype raciste sur la boxe. Dans les quartiers populaires, on ne peut que réussir par la boxe ou le hip-hop. Il n'y a en France, de personnes d'origine maghrébine ou noire qui est ambassadeur en France. Ça n'existe pas, les milieux diplomatiques, les ministères, etc. Donc ça n'existe pas. Par contre,
parlez de méritocratie.
Méritocratie.
C'est ça que vous voulez dire.
Exactement.
Donc les 3,3 milliards d'euros qui ont été annoncés par Jean Castex à la fin janvier 2021 pour les quartiers populaires, c'est une mesure qui est complètement inefficace.
Dans les
15 mesures et 3,3 milliards d'euros. Mais je suis moi-même issu d'un quartier populaire. Donc quand on donne 3,3 milliards d'euros pour les quartiers,
mais c'est pas le fait de donner de l'argent, en fait.
Vous jouez jeu d'opposition et vous le jouez très bien.
Moi,
ce que je vous dis aujourd'hui, c'est quand vous allez dans les quartiers populaires et quand vous parlez.
Moi, je suis dans aucune opposition.
Mais moi, je
suis dans une réalité du terrain.
Ah, papa, écoutons Nabil tenter de dire quelque chose.
Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait échanger? Est-ce qu'on pourrait échanger calmement, s'il vous plaît? Moi, j'aimerais juste savoir, Madame Shannon.
Ils sont énervés, les macronistes.
Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron, notamment pour les quartiers populaires? Et vous le savez très bien, parce que vous dites que vous êtes domicilié à Rosny-sous-Bois, qui est 93. Alors j'aimerais savoir, comment vous avez aperçu, qu'est-ce que vous avez vu qui a changé avec Emmanuel Macron dans le 93, notamment dans votre ville, à Rosny-sous-Bois? Parce que je connais beaucoup de personnes qui habitent Rosny-sous-Bois à Bondy, et excusez-moi, ils ont été déçus par Emmanuel Macron. Et arrêtez les longs discours, les beaux discours. C'est fini, ça. Ça, c'est un autre monde, ça. C'est l'ancien temps. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent des actes.
Moi, ce que je vous dis, c'est que on a affecté des millions d'euros pour l'amélioration.
C'est votre seul argument. Vous parlez à chaque fois de millions d'euros que vous avez donné, distribué. C'est le
mais, seul mais attendez, mais pour financer le renouvellement de certaines structures, je pense notamment aux structures sportives, pour dénouveler des classes,
Juste une question, madame.
Attendez, laissez Nabil, sinon il faut qu'on s'écoute parler, s'il vous plaît.
Dans le domaine médical, on a mis des millions, on n'a jamais eu autant de mauvais résultats, notamment pour détecter des cancers, etc. Ça ne suffit pas de mettre les moyens. C'est pas parce qu'on va mettre de l'argent qu'on va forcément avoir des bons résultats. Parce que si cet argent est dépensé, mais bêtement, il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas de résultats positifs, madame.
Vous savez, Nabil, dans le cadre de cette crise de la Covid-19, il y a eu un plan qui a été mis en place, qui est le plan de relance. Un plan de relance qui a permis de sauver des entreprises, qui a permis de sauver des emplois, des salariés, et qui a permis de sauver notre économie française. Dans le cadre de ce plan de relance, il y a eu plus de 1 milliard d'euros qui ont été fléchés pour ce qu'on appelle les QPV, pour les quartiers prioritaires de la ville, justement. Donc ça a été plus de, à ce stade, 870 millions d'euros qui ont été engagés ou programmés dans le cadre de ce plan de relance. Et ces crédits, ils portent notamment sur des projets concrets, tels que les rénovations énergétiques de logements privés, des réhabilitations dans le parc social et d'école, des travaux d'urgence, ou encore des fonds de recyclage de friches. Donc il y a eu pas mal de mesures qui ont été mises en place. Sur le pouvoir d'achat notamment, quand vous allez effectivement dans les quartiers, quand vous allez déambuler sur les marchés, et moi je l'ai vu tout au long de cette campagne et même bien avant, vous l'avez rappelé, je suis élue à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, et bien je le vois. Moi ce que j'ai entendu, c'était des habitants de Seine-Saint-Denis qui m'ont dit que grâce à Emmanuel Macron, ils ont pu remplir leur frigo. Pendant cette crise de la Covid-19, j'ai vu face à moi des Françaises et des Français, comme vous dites, dans les quartiers populaires, qui m'ont dit qu'ils ont pu continuer à manger et à vivre décemment. Donc arrêtons s'il vous plaît, et je tiens à le dire ce matin ici, arrêtons de stigmatiser les gens de quartiers populaires. C'est pas parce qu'on vient d'un quartier populaire qu'on ne pourra pas s'en sortir, c'est pas parce qu'on vient d'un quartier populaire qu'il faut stigmatiser et appeler les habitants de quartiers populaires les habitants de quartiers populaires. Il y a des difficultés, on l'entend, notamment sur les questions de logement, sur les questions de santé, sur les questions notamment d'accès d'emploi, effectivement.
Discrimination d'origine aussi, disons les choses, faut arrêter.
Non,
parce
sur les questions...
quartiers populaires, vous vous cachez derrière le mot quartier populaire et vous dites...
C'est vous justement qui utilisez ce terme-là, quartier populaire.
Vous vous cachez derrière le mot quartier populaire et vous ne regardez pas la réalité en face.
Mais aujourd'hui, si on ne regardait pas la réalité en face, on n'aurait pas investi 3 milliards d'euros
en faveur de
ces quartiers-là.
D'accord. Vous avez terminé ?
Alors, allez-y. Nabil, aujourd'hui, je vous libère, Nabil, vous avez fini ?
Aujourd'hui.
Oui, j'avais juste une question, moi, concernant le pouvoir d'achat. Parce que c'est très important. Moi, excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord avec, encore une fois, avec Chavel. Je suis désolé, moi, mon pouvoir d'achat, il a diminué. Bah moi, je le constate tous les jours. Avec le salaire médian que je gagne à 1700 euros, avec le loyer, avec l'électricité, avec les assurances, avec les mutuelles, etc., je m'en sors plus.
Le pouvoir d'achat au cœur de la campagne.
Ça a été effectivement, Adil, vous le rappelez, une thématique qui a été au cœur de cette campagne électorale. D'ailleurs, Marine Le Pen en a fait un
des grands sujets. Et le carburant aussi qui a augmenté, madame.
Alors, vous
Nabil,
moi, ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on a eu une invasion russe en Ukraine, Emmanuel Macron et le président de la République et notamment Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, ont fait le choix d'investir massivement pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Nous avons mis en place un bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité en décidant de contenir justement la hausse du prix de l'électricité à 4%. Nous avons ensuite gelé le prix du gaz au tarif d'octobre 2021. Nous avons offert une remise à la pompe de 15 centimes le litre pour tous les Françaises et les Français, ce qui vous permettait d'économiser en moyenne 9 euros sur un plein de 60 litres. Ça, c'est un bouclier tarifaire qui a été mis en place de façon très rapide et qui a permis de protéger de façon concrète le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Nous avons par ailleurs décidé de revaloriser la prime d'activité, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je l'avais rappelé en début d'émission, un salarié qui touchait environ 1260 euros net par mois au niveau de son SMIC touchera 1490 euros net par mois.
On notera quand même tout de même qu'effectivement, et il l'a dit lui-même Emmanuel Macron, il y a cette colère.
Mais cette colère,
on l'entend. Qui est présente.
Et ce serait complètement
une vraie colère. Colère sur le pouvoir d'achat, colère sur les différents sujets.
Dites colère.
Merci. Attendez. Merci. Oui, Nabil.
Je voudrais juste finir sur un point. Moi, ce qui me dégoûte, honnêtement, c'est le dégoût, assez fort comme mot, c'est que là, je vois pour les élections législatives, ils sont en train de faire leurs petits arrangements, politiciens, politiciennes, avec les écolos, avec LR, etc. Et ça me dégoûte au plus haut point.
Mais Nabil,
parce que là, les petites magouilles, on revient à l'ancien temps.
Ce ne sont pas des petites magouilles. L'objectif est de pouvoir rassembler. Si on veut pouvoir gouverner dans un esprit de sérénité pour les 5 années à venir, il faut pouvoir rassembler. Emmanuel Macron l'a rappelé, il ne partage pas la vie des gens, des pauvres.
Arrêtez.
Juste pour finir, excusez-moi, c'est le même discours d'Emmanuel Macron il y a 5 ans.
S'il vous plaît.
Il nous disait, je vais rassembler tout le monde. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. On est au centre. Je prends les meilleures idées, etc. On a cru à son discours il y a 5 ans. Mais là, ça ne passe plus. La pilule ne passe plus. Je suis désolé.
Et là, mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous voulez? C'est avoir un Emmanuel Macron qui décide de gouverner tout seul dans sa chapelle? C'est ça ce que vous demandez aujourd'hui?
Mais c'était le cas pendant 5 ans. Mais ça, hey, madame, vous avez oublié les émeutes, les gilets jaunes. On les a tabassés.
Mais c'est pour ça que je vous dis que on apprend. Vous savez, on apprend au cours d'un quinquennat. Et Emmanuel Macron,
aussi.
Aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est dans
la
une optique aujourd'hui de construction.
La violence a augmenté.
Mais ne soyez pas cynique.
On le ressent.
Ne soyez
dans
pas
tous les secteurs,
cynique.
Que ça soit à l'hôpital.
Mais
ça
ne
soit
soyez
dans
pas
football.
Cynique parce
moi,
qu'on n'avance pas dans le cynisme.
Il y a un arbitre qui a été agressé.
Je reconnais ces
mots.
Mais je vois juste apporter quelques chiffres. Marine Le Pen, juste quelques chiffres. Nabil, il faut qu'on avance parce qu'on a d'autres auditeurs.
Moi, je vois bien votre.
Merci Nabil. Tout cas, évidemment, pour votre témoignage et votre pertinence. Merci Nabil.
Bonne journée à vous.
Merci. Marine Le Pen, je vais rappeler juste quelques éléments. Qui est arrivée en tête dans 30 départements contre 2 en 2017. Autant dire évidemment qu'il y a aussi peut-être certainement des frustrations. 01 53 48 3000. Seconde pub et on se retrouve tout de suite après pour la dernière ligne droite.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Et les 19h39, 30h40, même maintenant, dernière ligne droite ici même dans les informés avec Shalom Seban, élu sur Rosny-sous-Bois, avec Hamid Triat, éditorialiste. Nous allons poursuivre ce débat, y compris avec vous au 01 53 48 3000. Direction Le Standard, où je vais accueillir Yacine du 92. Yacine, quelle ville du 92?
Oui, allô?
Oui, bonjour Yacine.
Bonjour, je suis outré par ce que j'entends et si la dame qui parlait tout à l'heure, qui se réjouissait de la réélection de Macron.
Il est d'accord avec moi.
Il y a un vote sanction contre Madame Le Pen. C'est s'il y avait en face, parce qu'il nous a bien endormi. Ouais. Moi, je suis un indépendant, d'accord. On est criblé. Les cotisations qu'on paye ont doublé. Nos retraites, on cotise toute notre vie. Et vous savez, la retraite que je vais toucher, moi, à la fin, je ne toucherai pas plus de 800, 900 euros, maximum 1000 euros. Qu'est-ce que vous faites avec 1000 euros?
Ah, bah, c'est
vous
sûr.
Vous faites rien du tout.
Ah, voilà. Ça, c'est sûr. Oui.
Quand on cherche
et quand,
à.
Vous êtes là en train de récolter des voix. Qu'est-ce qu'il a fait de toutes les associations qu'il a fermées? Le foyer isolé pour les femmes musulmanes, qui a été fermé. Qu'est-ce qu'il a fait pour cette communauté de banlieue où vous allez récolter des voix? J'espère qu'il va avoir un troisième tour et qu'il va avoir un vote sanction contre eux. Pas contre Marine Le Pen, mais contre le parti là qui est en train d'endormir toute la population là. Et qu'il y aura un Mélenchon qui va venir pour faire l'écran à ce qui a été fait.
Merci de votre intervention, Yacine du 92. Je vais accueillir, pardonnez-moi Shannon, juste pour qu'on puisse avancer. Mohamed du 93. Mohamed, bonjour. Bonjour Mohamed. Oui, allô, bonjour allô, Mohamed bonjour. Du 93. Je vous écoute, bienvenue. Quelle ville du 93?
Épinay.
Épinay, bienvenue. On vous écoute, mon cher Mohamed.
Je me permets de réagir face à la dame qui est avec vous actuellement sur le plateau. Ah, j'habite actuellement à Épinay, mais je suis originaire de France, justement, de la ville de Denain,
et tout pour moi.
qui est ma ville natale. Parce qu'elle parlait de M. Macron qui est parti justement dans ma ville natale. Et donc, c'est une région que je connais par cœur parce que j'y suis né. Excusez-moi de parler comme ça, mais bon, non, aucun président, ni Emmanuel Macron, ni avant lui, n'ont rien fait pour sauver cette région, parce que j'y suis né, et aucun président n'a pu sauver l'industrie comme Usinor et Sky Babcock ou Ascoval.
Oui.
On a rien fait pour sauver cette industrie. Et la dame qui est avec vous parle d'investissement, mais aucun investissement n'a pu être fait et aucun président n'a pu sauver l'industrie française.
Vous répondez quoi, Shannon Seban?
Non, moi ce que je réponds, c'est que Quand on nous dit que nous n'avons rien fait pour sauver l'industrie française, c'est faux. On a eu de très beaux projets, justement. On a pu sauver certaines entreprises. On a réinvesti très largement, notamment dans le cadre du plan de relance et désormais dans le cadre du plan de résilience.
Excusez-moi, je vous arrête. Usinor se portait très mal à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing. Ils sont venus le voir à l'Élysée à l'époque et il n'a rien fait pour les sauver. Donc il y a eu une première vague de licenciement en 1978, donc il n'a rien fait pour le retenir. En 1981, François Mitterrand a été élu, donc Usinor a mis la clé sous la porte. Donc je pense que rien n'a été fait, excusez-moi. Pourtant, ils sont venus rentrer à l'Élysée. Donc aucun effort n'a été fait.
Vous savez, l'industrie au cours de ce quinquennat.
Madame, s'il vous plaît, je vous parle d'une région dont je suis natif. Demain, j'y suis né, madame. Il y a eu, avant ma naissance.
Mais elle va vous répondre aussi, mon cher Mohamed.
Non, madame, parce que je vous dis, parce que avant que je sois né, mes deux grands-pères y étaient. Mon grand-père maternel et mon grand-père.
Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que rien n'a été jamais fait, que des promesses.
Rien, mais je vous dis clairement, rien n'a été fait, madame.
Depuis, effectivement, plus de 40 ans.
Depuis plus d'un siècle, déjà.
Plus d'un siècle, d'accord. Merci, Mohamed. Écoutez. Elle va tenter de vous répondre et puis effectivement, en tout cas vous êtes intervenu et je vous en remercie. Shannon Seban.
Merci beaucoup pour votre intervention sur cette thématique centrale qui est l'industrie. Moi, ce que je peux vous répondre, c'est que dès lors qu'il a effectivement déclaré sa candidature, le président de la République a rappelé que l'industrie a pour la première fois recréé des emplois sur notre sol français. S'il y a bien un président de la République qui a agi pour l'industrie française, c'est Emmanuel Macron. Quand vous allez aujourd'hui sur le terrain et quand vous regardez le nombre d'usines qui ont été sauvées au cours de ce quinquennat grâce au plan de relance, c'est phénoménal. Quand vous regardez le cap et le choix qui a été fait par Emmanuel Macron dans le cadre du plan France 2030 pour les années à venir, c'est historique. Il y a des millions d'euros qui vont être investis pour sauver des filières industrielles, pour créer des filières d'avenir. Je pense notamment à l'hydrogène, je pense notamment au quantique, au numérique. Tout ça, ce sont des filières d'avenir. Nous allons réindustrialiser certaines chaînes de production. Je pense notamment à certaines chaînes de production, si nous prenons par exemple le domaine de la santé, certaines chaînes de production de médicaments. Donc quand on dit qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a rien fait pour l'industrie, je ne peux pas vous laisser dire ça. Nous avons agi massivement et largement.
Un dossier qui est actuellement en cours, madame. Vous m'entendez ?
Je vous entends.
Un dossier qui est actuellement en cours avec Ascoval Valoret qui cherche à délocaliser son activité en Allemagne. Qu'est-ce qu'il compte faire pour cette entreprise?
Eh bien, il y a Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre déléguée en charge de l'industrie, qui travaille ardemment sur ce dossier. Et je crois qu'une solution va effectivement être trouvée. En tout cas, on travaille d'arrache-pied sur ces dossiers-là industriels. Il n'est pas question de fermer des usines parce qu'elles ne sont plus rentables ou parce qu'elles sont en difficulté financière.
Non, mais justement...
Mohamed, il y a d'autres auditeurs...
S'il vous plaît, parce que vous parlez de l'énergie et la principale raison de sa délocalisation justement c'est parce que c'est une entreprise qui tourne à l'électricité et l'électricité est horriblement chère en France et c'est la raison de sa délocalisation en Allemagne parce que c'est des usines qui tournent encore au charbon là-bas et l'Allemagne reste un pays un gros pays industriel et l'électricité en France reste horriblement cher et c'est la raison de sa délocalisation. Alors quand vous parlez de l'énergie en France, ça fait vraiment rigoler.
Vous savez, Emmanuel Macron, il a dit d'ailleurs qu'il voulait faire du pays. Emmanuel Macron a d'ailleurs dit effectivement qu'il voulait faire du pays une grande nation écologique et faire de cette nation celle qui sera la première qui sortira de la dépendance au gaz, au pétrole et au charbon pour réduire ensuite notre dépendance aux énergies fossiles. Et face à cette augmentation et face à cette envolée, vous l'avez rappelé, des tarifs de l'électricité, il a mis en place un bouclier tarifaire qui est extrêmement efficace et les acteurs, que ce soit les acteurs, les ménages, comme les entreprises reconnaissent que cette mesure a permis de contenir effectivement la hausse de la facture d'électricité à 4%. Là où vous aviez notamment une candidate qui s'appelle s'appelle Marine Le Pen, qui voulait réduire la TVA de 20% à 5,5% et qui n'aurait permis, in fine, de contenir la hausse du prix de l'électricité qu'à 19%. Mmh. Donc il y a des mesures qui ont été prises et je crois qu'il faut parfois regarder ailleurs pour se rendre compte
merci, Mohamed. Des mesures qui ont été Mohamed. Prises par je libère Mohamed. Merci Mohamed, je vous donne la parole à Mitch Riette. Je voudrais juste accueillir Amadou de Grenoble. Bonjour Amadou.
Bonjour Adil, bonjour. Merci de m'avoir passé la parole.
Je vous
merci
en prie.
D'avoir invité aussi Karim Zeribi. Bon, il est là. Bon, donc le problème de Macron, cette fois-ci, il a été réélu comme Chirac, comme le propos de Chirac. Il faut qu'il fasse, il a un défi, il n'a aucun pouvoir il est réélu, mais il n'a aucun pouvoir à la main. Parce que quand tu prends l'extrême droite, c'est l'île de la Réunion, Marine Le Pen évolue. Je suis pas contre, je respecte les électeurs, mais la politique de Marine Le Pen, je ne me trouve pas parce qu'il n'est pas ouvert. La politique, elle est plurielle. La politique étrangère, la politique intérieure. Il faut que Macron, il a une doctrine économique, il faut qu'il regarde ce qu'il ne voit pas à l'intérieur de la politique intérieure. Oui. Bon, la religion encore.
Vous avez entendu.
Mais la religion, il ne faut pas attendre des politiques qui vont vous soutenir. Mais ce qu'il y a, ils n'ont pas le droit de ne pas dire que aucun religion ne peut pas, nos frères religieux d'Arabie Saoudite ou quoi qu'il en soit, ils ne peuvent pas nous donner ça, ils n'ont aucun droit de nous imposer ça. Ils nous laissent notre islam, ils nous laissent que nos frères nous aident la franchise religieuse. Voilà, ils nous donnent notre liberté religieuse. Une bonne continuation à vous.
Merci, Amadou Grenoble. Vous voulez réagir?
Non, dire qu'effectivement.
Liberté religieuse.
La question, c'est quoi? C'est sur la laïcité?
Ah non, mais lui, non, au contraire, non, il disait qu'effectivement, cette pluralité, il parlait de pluriel, de cette France plurielle, mais qu'il fallait tenir compte du vote de Marine Le Pen, que Emmanuel Macron doit tenir compte de ce qui se passe. Voilà ce que dit Amadou.
Nous, ce que je veux dire ici, c'est qu'effectivement, comme je vous l'avais dit en début d'émission, on sait très bien qu'il y a eu un vote qui a été un vote de raison et non parfois un vote de conviction, et ça, on l'entend. Aujourd'hui, ce dont on se félicite, c'est que nous avons les moyens de pouvoir continuer à gouverner de façon sereine pour les Françaises et les Français. On sait qu'il y a un message aujourd'hui qui est celui d'un message contestataire, on l'entend. C'est pour ça que nous faisons un appel aujourd'hui aussi au rassemblement pour pouvoir gouverner dans un esprit de sérénité et pouvoir continuer à porter les valeurs qui sont celles de la France, de liberté, d'égalité, de fraternité, mais aussi, comme l'a rappelé notre auditeur, de laïcité.
Amadou, c'était Amadou de Grenoble, effectivement.
Écoutez, ce qui va se jouer.
Je devais vous redonner la parole.
Ce qui va se jouer dans les prochains. Merci beaucoup. Ce qui va jouer dans les prochains mois, ça sera effectivement les élections législatives et la capacité à ce gouvernement-là de pouvoir, en tout cas, coopérer avec d'autres forces alternatives, la société civile, des associations, et pouvoir, en tout cas, s'ouvrir sur la question de l'écologie, la question du pouvoir d'achat, la question des inégalités, la question de la discrimination et le culte musulman aussi. Parce on a vu que pendant ces 5 années, la loi sur les séparatismes a effectivement fait beaucoup de dégâts dans les quartiers populaires et dans la communauté musulmane. Ça aussi, c'est important de le dire, et aussi au niveau international. Des points qu'il y avait un boycott du monde musulman, et qu'Emmanuel Macron a une très mauvaise image dans plusieurs pays aujourd'hui. À cause effectivement de cette loi sur le séparatisme. À cause de cette loi. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut réconcilier tous les Français, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur couleur de peau, il va falloir travailler ensemble. Et moi, je lance un défi aujourd'hui au président de la République, c'est qu'il doit, et il n'a pas d'autre choix que de coopérer avec les autres.
Mais c'est exactement ce qu'il a dit hier.
Oui. Mais c'est ce qu'il dit, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait.
Oui, mais moi je vous dis qu'en tout cas, il a pris l'engagement de le faire et il appelle au rassemblement.
Moi je ne donne pas de jugement de valeur, je ne fais pas de morale. Je suis effectivement conscient que les enjeux sont importants pour notre pays. Il y a une crise démocratique. Je crois en votre sincérité, mais j'attends les actes. Voilà.
Shannon Seban, avant de rendre l'antenne.
Non, mais écoutez, non. Pour revenir sur ce que disait Hamid, effectivement, moi, je crois que, comme vous l'avez rappelé hier, Emmanuel Macron, lors de son discours sur le Champ de Mars, a dit de façon très claire qu'il n'était plus le candidat ou le président d'un camp politique, mais bien le candidat de tous les Françaises et les Français. Moi, ce que je veux dire ici, c'est que il faut tout d'abord remercier les militants qui ont fait la campagne d'Emmanuel Macron, mais aussi tous les Françaises et les Français qui ont décidé de lui faire confiance pour un second quinquennat, et que aujourd'hui, effectivement, et vous l'avez dit, on entre dans une nouvelle phase, que le plus dur commence, qu'il s'agira de rassembler pour pouvoir ensuite mieux gouverner autour de 3 thématiques centrales qui sont celles du pouvoir d'achat, de l'écologie et de la santé, de la lutte contre les inégalités et de l'éducation pour pouvoir continuer à faire vivre les valeurs de notre France.
Merci.
Et ça, on en a bien conscience.
Merci à Mitch Riette.
Gouverner ensemble, on attend, on va voir si Emmanuel Macron tendra la main ou si sont simplement des paroles.
Merci à vous deux, merci à Shannon Seban.
Merci beaucoup, Adil.
Un débat très animé aujourd'hui.
C'était très salé.
Y compris avec les auditeurs. Hein.
Vous voyez, c'est calme, on débat de façon calme.
Absolument. Merci à Mitch Riette, à la réalisation, c'était Zora. Merci à vous tous, vous avez été nombreux. comme toujours d'ailleurs, à nous appeler au standard. À demain avec autant de plaisir, mais on ne lâche rien. Portez-vous bien, belle journée.